L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, bon week-end, merci d'être là. Vous êtes sur BFM Business et vous êtes au cœur de cet atelier numérique. Chaque samedi, nous sommes là. 16h, 18h, votre rendez-vous dédié aux nouvelles techno et à l'économie numérique. Et je suis ravi d'être à vos côtés. Avec toute l'équipe de l'atelier qui est là, nous avons Aurore Géraud, Lila Megraoua et Antoine Cyr. Messieurs, dames, bonjour, bonjour.
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 Et puis, tout à l'heure, bonjour, mon cher Antoine. Antoine qu'on va retrouver évidemment tout au long de cet atelier pour sa sélection de gadgets et puis pour le crash test tout à l'heure. Il sera question d'agriculture à l'occasion du
SIA,
le salon de l'agriculture, le
salon international de l'agriculture.
Pardon,
monsieur,
excuse-moi,
c'est pour ça que ça s'appelle le SIA.
Le SIA, ah maintenant il est international.
Ah bah oui,
le salon de l'agriculture.
Ah bah dites,
ah bah attendez.
Et vous avez détenu, vous avez créé le SIA le jour où vous avez commencé à parler anglais.
Eh oui, c'est vrai.
Comme une
casserole.
Vache espagnole.
Comme une vache espagnole, c'est ça. Bon, alors au menu de cet atelier, dans un instant, l'actu vu par toute l'équipe de l'atelier, Silicon Carnet, Cyber Gadget avec Antoine, qui a trouvé pour nous des baskets connectées qui ont été dévoilées au Mobile World Congress.
En Espagne, où vous êtes allé, vous avez
voilà,
parlé anglais.
Voilà, où je parlais de la vache. Voilà. On parlera aussi du salon d'agriculture, l'apport des nouvelles technologies dans l'agriculture, ce sera tout à l'heure. Et puis, notre web stratégie, on reviendra sur le Mobile World Congress avec Lila Megraoua qui nous parlera des innovations du côté de chez Ford. Et puis, l'actu vu par l'équipe de 01net.com et puis le crash test. Voilà, vous savez tout. Soyez les bienvenus. Jean de Chambure sera là aussi tout à l'heure pour notre rendez-vous vu d'Asie. Et on commence par l'actu vu par toute l'équipe de l'atelier. Mon cher Antoine, je vous propose d'ouvrir le bal cette semaine.
Alors, je vous propose une application pour smartphone.
Ah oh non, c'est nul ça. Allez, passe à autre chose.
Au revoir.
Non, je plaisante.
Non, mais alors cette application, elle est assez étonnante, mais ça pose quand même question.
Ah.
Elle s'appelle Perspex.
Pardon?
Perspex. Comme perspective, mais en anglais.
Perspex.
Pardon, je devrais dire Perspex.
Perspex. Voilà. D'accord.
Alors, le principe de cette application, c'est que chaque journal a sa ligne éditoriale, chaque journaliste a sa façon de voir les choses. Et évidemment, quand vous cherchez une info, vous allez tomber sur un premier traitement de l'info sans savoir forcément quelle est la perspective, c'est pour ça que ça s'appelle Perspex, ou l'angle du journaliste qui l'a traité. Donc, vous n'avez pas forcément la capacité de modérer l'information que vous lisez, de la connaissance que vous avez des opinions du journaliste. Vous me suivez jusqu'ici.
Logique.
Bon. Donc, Perspex se dit, voilà, sur chaque information, c'est un agrégateur de contenu, hein, qui donc agrège tous les contenus sur une info. Et donc, il va dire, je vais en sélectionner trois, qui donne trois traitements. L'un qui va être orienté, par exemple, si c'est une nouvelle qui a une connotation politique, il va dire, bah, je vais en prendre une qui a un traitement orienté à gauche, une qui a un traitement orienté à droite, et une qui a un traitement,
donc,
central.
En fait, c'est la même info, mais avec trois angles différents.
Exactement. On va nous donner trois angles différents qui correspondent vraiment, c'est là que, si ça marche, c'est quand même pas mal, qui correspondent à trois philosophies, à trois visions de l'actualité qui sont.
Mais il faut que ce soit aussi les trois visions les plus importantes.
Alors, c'est là où ça va être quand même un peu compliqué.
Ouais.
Parce que, bon, là, si c'est un sujet général et qu'il y a une vision de gauche, une vision de droite et une vision du centre, c'est relativement facile. Mais si, par exemple, vous avez, je sais pas moi, le fait de savoir si le système solaire existe, bon, bah, vous avez des gens, vous avez quelques personnes qui nient l'existence du système solaire, mais ce sont des hurluberlus.
Oui, il faudra pas donner la même importance.
Bah non, parce que normalement,
le gars qui dit, bah, ça existe.
Bah voilà, solaire. Parce que l'existence a été vérifiée. Il y a des gars qui sont allés sur les planètes, qui ont fait des calculs, etc. Donc quand même, moi, le gars, si vous voulez, si quelqu'un que je connais pas arrive et puis qui me dit, voilà, au fait, bonjour, je m'appelle Alfred et je nie l'existence du système solaire. Bah, je vais lui dire, écoute, Alfred, t'es sympa, mais
je te crois pas.
Je suis prêt à boire une bonne bière avec toi, mais
on va parler d'autre chose.
Mais ta conception de l'univers, je n'y crois pas. Voilà. Bon, donc évidemment, c'est un peu c'est ça qui est un peu compliqué. Mais sinon, par exemple, ça marche très bien, je trouve, pour une critique culturelle, parce que le lecteur pourra en lire une positive, une négative et une neutre. Bon, et si le spectacle est très bien, normalement, les arguments négatifs doit sentir qu'ils sont pas très bons.
Mais il y a des humains derrière tout ça, voilà, qui sélectionnent les informations, ou c'est que des algorithmes?
Non, il veut, à mon avis, ça ne peut marcher que s'il y a des humains
bien
à un
sûr,
moment.
Évidemment. Oui, il y a un rédacteur en chef qui choisit les angles différents.
Il y a forcément des algorithmes et il y a forcément des humains.
D'accord.
Voilà. C'est une application qui est actuellement testée en version bêta et qui a remporté le prix, surprenez-nous, de la BBC. Voilà.
Très bien. Bah, à suivre. Bien évidemment. Aurore Géraud, qui est avec nous. Rebonjour.
Je vous appelle du fin fond des Yvelines, vous êtes content?
Ah oui, et ça s'entend bien d'ailleurs, hein. Vous avez une bonne ligne dans les Yvelines.
Génial. Alors moi je vais vous parler aujourd'hui de bracelets connectés. Alors on a un peu l'habitude d'en parler, notamment dans le domaine de la santé où on a vu ces dernières années des bracelets qui permettent d'injecter de l'insuline pour les diabétiques ou qui permettent aussi de faire des prises de sang en direct. Et là moi je vais vous parler d'un bracelet qui permet de vous injecter de la caféine.
Donc
de
carrément.
Injecter votre shot quotidien de café.
Le bracelet Nespresso.
Pour tenir toute la journée,
quoi. C'est ça. Et alors comment ça marche et ça sert à quoi?
Un bracelet pour l'instant pas connecté, mais après l'idée sera de le faire hein, puisque c'est plutôt un patch un peu comme les patchs nicotine pour arrêter la dépendance hein, qui permet en fait de donner des shots pendant à peu près 4 heures de café. Mais petit à petit, ça devrait se monter en fait en quelque chose de connecté puisque le bracelet pourrait être une montre connectée avec une application dédiée. Et donc tout l'intérêt, donc c'est évidemment de garder de l'énergie toute la journée. Moi, je prends du café pour ça. J'aime pas particulièrement le café. Je le prends juste pour tenir éveillé, pour bosser à l'atelier numérique. Et sinon, ça permet aussi de se désintoxiquer. Donc comme le principe des patchs en anti-tabac, mais l'avantage de ce bracelet aussi, c'est que donc pas de calories puisque c'est simplement de la caféine et du guarana qui est injecté,
ouais.
Et en plus pas de traces sur les dents.
En plus, eh bien bravo. Très bien, merci beaucoup Aurore pour ce bracelet donc qui injecte de la caféine directement. Eh bien dites-moi, Lila.
On va revenir au Mobile World Congress.
Qui s'est déroulé d'ailleurs cette semaine.
Mais oui.
On en parlera tout à l'heure. Hein,
on en parlera plus tard. L'une des grosses tendances du Mobile World, on peut dire, c'était la réalité virtuelle. Et moi, je vais vous parler non pas d'un énième casque de géant, mais d'une technologie assez bluffante. Alors, en fait, il s'agit d'une start-up qui s'appelle The Eye Tribe et qui, tout simplement, en fait, a présenté une espèce d'Oculus Rift hacké, capable, en fait, de reconnaître la position de vos yeux sur un système de réalité virtuelle. Alors en fait, ils ont hacké l'Oculus Rift, ils ont tout simplement ajouté des caméras, un ensemble de miroirs et des capteurs infrarouges de sorte que le casque est capable de discerner les mouvements de votre œil. Donc pendant la démonstration, on pouvait regarder des points très précis à l'écran pour les activer. Alors par exemple, vous fixez une photographie dans une galerie, le casque va reconnaître que vous la fixez. Vous n'avez pas forcément besoin de lever la tête si la photographie est en haut ou en bas. Donc c'est assez étonnant.
Très bien, merci beaucoup.
The Eye Tribe.
On parlera tout à l'heure hein, de ce Mobile World Congress avec les grosses nouveautés, les gros smartphones attendus. Ce sera avec la rédaction de Zeronet.com. On en parlera aussi avec Jean de Chambure dans quelques minutes d'ailleurs pour son rendez-vous vue d'Asie, puisque les Chinois étaient en force donc là-bas. Et puis avec Ford aussi qui annonce pas mal de nouveautés. Ce sera avec Lila Negraoua et ses invités. Antoine.
Oui.
Une petite news, tiens.
Oui.
Oui. Oui, alors allons-y.
Bon, vous connaissez le yo-yo plotter?
Le yo-yo plotter.
Oui, dit sans l'accent, c'est pas terrible.
Oui, parce qu'il n'est pas peloteur.
Non, il est plotter.
Ah oui, plotter.
Donc il complote.
Il complote, voilà. Plot, c'est comploter.
Oui, oui. Non, comploter. Non, il faut bien préciser que c'est en anglais.
Oui, oui, oui.
On sait jamais.
Non, mais je sais bien. Non, mais bon, il y avait quand même un petit zeste de...
Oui, mais
oui,
petit.
Bon, il était petit, le zeste. Ouais. Voilà, il faut toujours faire un petit zeste pour ses amis.
Tout à fait. Alors, le yo-yo plotter, donc.
Eh bien, en fait, c'est un robot dessinateur de selfies. Donc, c'est plutôt amusant. Ça a été mis en place par le Creative Lab de Google. En gros, en ce moment, vous avez plein d'applis qui apparaissent, qui vous permettent de faire votre visage en bande dessinée, etc.
Ouais,
mais il
ouais,
n'y a
ouais,
pas
ouais.
vraiment... Il y a pas vraiment d'appli ou de système qui permet, par exemple, de transformer votre selfie en œuvre d'art.
Oui.
Vous voyez, c'est-à-dire ça part vraiment de votre photo.
C'est rare parce que moi, en général, mes selfies, c'est pas des œuvres d'art, quoi.
Mais si, François.
Je vous le dis, mais vous, je vous le dis, quoi. C'est pas du tout, du tout, du tout.
Non, pas du tout. Moi, je trouve que la déformation engendrée par le selfie a plutôt des effets positifs sur vous.
Non, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Enfin bon. Bref.
Voilà. Donc donc il y a ce yo-yo plotter qui est un prototype et qui donc gribouille les parties sombres et laisse blanches les parties éclairées de façon à faire ressortir votre visage seulement par les ombres. Mmh. Et donc ça transforme votre selfie en une œuvre artistique relativement intéressante. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que ça a été créé par le Creative Lab de Google, qui est un lieu d'expérimentation pour tous les salariés de la firme.
D'accord.
Qui sont encouragés à mener à bien des projets alternatifs. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, du coup, c'est que le logiciel utilisé pour la carte, pour contrôler la carte Yo-Yo, est en open source, ce qui permet finalement, même si vous ne travaillez pas chez Google, d'aller perfectionner le système. Et là, quand même, on peut imaginer qu'on ait des informaticiens artistes qui, à partir de cette ouverture que leur donne Yo-Yo, vont créer des systèmes qui vont permettre de transformer nos visages d'une manière qui va être de plus en plus artistique et de plus en plus intéressante. Donc je vous cache pas que moi, c'est le côté open source de cette innovation qui me fait le plus rêver.
Yo-Yo Plotter.
Donc. Yo-Yo Plotter.
Thank you very much.
Yes.
Mr. Antoine.
You're welcome.
Et tout de suite, écoutez, là, on quitte l'accent anglais, puisque nous allons aller directement en Chine avec notre ami Jean de Chambure. C'est notre rendez-vous vu d'Asie de cette semaine. Bonjour Jean.
Bonjour François.
Alors Jean, on va faire en plus le grand écart cette semaine, puisque vous êtes à Shanghai, mais on va parler de l'innovation chinoise présente au Mobile World Congress qui s'est déroulé à Barcelone.
Oui, voilà, tout à fait, François. C'est vrai que c'est une façon de suivre l'actualité aussi que de regarder ce que la Chine digitale produit à l'extérieur. Et évidemment, cette semaine, la Chine digitale, pour bonne partie d'entre elles en tout cas, a été très très intéressée, très présente aussi, pour être au fameux Mobile World Congress dans lequel vous avez peut-être d'ailleurs croisé un certain nombre de start-up chinoises qui étaient présentes. Alors le gros sujet évidemment du mobile en Chine, c'est capital pour toute l'économie digitale, parce que évidemment de plus en plus maintenant les applications ne sont que sur mobile ou que sur WeChat qui est lui-même sur mobile. Enfin voilà, tout l'écosystème internet digital se trouve sur le téléphone. Il y a eu un petit ralentissement de la croissance qui est assez normal parce que finalement aujourd'hui tous les Chinois sont occupés de smartphones, mais néanmoins on voit que dans cette croissance qui continue et qui, même si elle ralentit, il y a l'arrivée pas à pas, et ceci au niveau mondial, de constructeurs chinois. Vous avez vu Huawei par exemple, hein, qui est toujours le troisième constructeur mondial. Mm-hmm. Alors il est très loin derrière Samsung et Apple. Hein. Samsung et Apple comptent pour la grande majorité. Eux sont des parts de marché, tandis que Huawei était autour de 7%. Voilà, donc c'est encore assez loin de ces deux grands leaders.
Mais je vous coupe 15 secondes en fait, Jean. Mais Huawei avait une présence incroyable au Mobile World Congress. Ils étaient partout à la fois dans les mobiles, dans les tablettes, mais aussi en tant qu'équipementier réseau. Il y avait une vraie suprématie Huawei présente à Barcelone.
Ah, bah écoutez, nous on est content d'entendre ça en Chine parce qu'effectivement Huawei est très 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 c'est un peu un leader fascinant. Il y avait peut-être pas vu Xiaomi, en revanche Xiaomi était un peu discret. Enfin moi lorsque j'avais été il y a quelque temps il y a un an en fait, Xiaomi était un peu moins présent. Mais Xiaomi en tout cas se développe aussi très fortement, vous le savez, en Chine mais également autour de Chine, en Indonésie, à Singapour, en Malaisie, ils sont de plus en plus présents. Les deux startups à côté de ces deux grands fabricants de téléphones mobiles sur lesquels je voulais un petit peu insister cette semaine, François, sont très intéressantes. Il y en a une qui s'appelle Focalmax. Alors Focalmax est une start-up qui date de l'année dernière, qui a été à Shenzhen. Et en fait, elle propose une technologie extrêmement intéressante pour, bon, bien sûr, améliorer l'image, les qualités vidéo d'un téléphone mobile, mais aussi elle se lance vraiment dans la 3D, les images 3D, les vidéos 3D peuvent être regardées sur un système Android mobile grâce à Focalmax. Donc ça, je pense que c'est très intéressant à regarder. Et puis il y en a une autre start-up qui m'a semblé aussi assez assez prometteuse, qui s'appelle K-Love. K-Love, alors là, c'est dans la connectique. C'est la connectique à type d'application gratuite vidéo, FaceTime ou Skype ou autre, ou WeChat d'ailleurs. Eh bien, en fait, cette application va envoyer un excellent signal et va permettre une communication à 160 degrés, y compris avec une reconnaissance de la voix qui peut aller jusqu'à 5 mètres, avec un rayon de 5 mètres de distance. Donc, on va pouvoir facilement faire de la vidéo sur son téléphone grâce à K-Wave. Voilà. K-Love, pardonnez-moi. C'est pas la K-Wave, ça c'est en Corée. Donc, K-Love, c'est la seconde start-up qui me semblait très intéressante à mentionner. Et la Chine est, voilà, très très motivée aussi pour son propre Mobile World Congress. Vous savez que c'est à Shanghai que ça se passe et ce sera au mois de juillet.
Exactement. Et puis alors j'imagine que vous serez au cœur de cet événement, Jean, que vous nous ferez vivre en direct depuis Shanghai. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, Jean, et vous restez avec nous. La suite de l'atelier, c'est dans une minute, le Silicon Carnet de Nathalie Doré et puis la collection de gadgets d'Antoine. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, vous les attendez, les gadgets d'Antoine. Eh bien, ça tombe bien, ils seront là dans quelques minutes. Mais auparavant, autre rendez-vous que vous attendez, c'est le Silicon Carnet avec Nathalie Dory depuis San Francisco. Alors Nathalie, on va parler cette semaine de diversité dans la Silicon Valley. Mais alors là, on s'éloigne un peu du numérique quand même, non ?
Eh bien, pas vraiment, François. Alors, c'est vrai, je vous l'accorde, la diversité est un vaste sujet et beaucoup d'entreprises de la tech se sont d'ailleurs faites épingler car présentant très peu de minorités dans leur staff. Ils publient désormais leurs statistiques régulièrement. Eh bien, alors que le constat n'est toujours pas très bon, des startups, elles, ont planché sur le sujet et proposent des outils qui permettent de confronter des problèmes auxquels les entreprises ne savent même pas qu'ils existent.
Et de quels problèmes, justement, s'agit-il ?
Alors, selon moi, il y a deux catégories. Il y a les problèmes qui sont connus et les problèmes qui sont moins connus, voire inconscients. Alors, exemple de problèmes connus, le manager qui raisonne encore selon son parcours et qui dit, par exemple, moi, pour recruter, je fais appel à mon réseau d'anciens de Stanford, c'est top, etc. Donc là, on est sur des problèmes connus que les entreprises essayent de combattre. Après, il y a des problèmes moins connus, voire inconscients. Et là, ce sont les managers qui raisonnent en se disant, voilà, moi je veux la diversité dans mon équipe, je fais tout pour, et pourtant, in fine, les recrutements sont toujours plutôt des hommes, plutôt de race blanche et plutôt jeunes. Eh bien, ces managers-là ont des biais inconscients sur lesquels il est désormais possible d'agir.
Et c'est là justement, Nathalie, où la tech entre en jeu ?
Oui, François. Alors, il existe aujourd'hui des logiciels qui permettent de lutter contre ces biais inconscients. Alors, prenons par exemple le processus de recrutement. Quand une personne rédige une description de poste, certains mots utilisés vont exclure les minorités. Et ça, on ne le sait pas. Par exemple, le terme work hard, play hard en anglais, que l'on traduirait par travailler dur et aussi s'amuser, a une connotation très masculine, alors que les mots comme support ou travail d'équipe ont tendance, eux, à attirer les minorités. Il existe donc aujourd'hui des logiciels qui font cette lecture et qui proposent, du coup, d'exclure les termes qui vont être, eux, excluants pour les minorités.
Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner ?
Oui, j'en ai même plusieurs. Alors, tout d'abord, c'est la société informatique Red Seal, qui est basée dans la Silicon Valley à Sunnyvale, qui a utilisé, elle, le logiciel Unitive. Et le fait de faire sauter ses biens inconscients grâce au logiciel a permis de doubler le nombre de femmes au poste d'ingénieur chez Red Seal. Alors, plus récemment, c'est Change.org, qui est une entreprise sociale qui propose des pétitions en ligne. Elle s'est équipée du logiciel Textio. Et c'est un logiciel qui permet de retravailler justement les descriptions de postes et d'attirer ainsi des talents plus diverses. Et Change.org d'ailleurs mixe aussi l'utilisation de ce logiciel avec des formations de leurs managers pour bien les utiliser.
On voit que ce sujet de la diversité est et on va dire très sensible et important aux USA. Pourquoi, Nathalie, vous qui êtes là-bas?
Alors c'est vrai, hein, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup, et je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, et les études le montrent, c'est que la diversité est bénéfique à l'entreprise. Or, les entreprises sont entre guillemets principalement des mauvais élèves. Donc les études montrent que les entreprises ayant des cadres dirigeants au profil varié améliorent la rentabilité, baissent le risque, améliorent la performance, etc. Ensuite, je pense qu'il y a un autre point qui joue, c'est que la diversité va être de plus en plus présente dans la clientèle et même dans la société en général. Alors, il y a une étude qui est sortie de Pew Research Center qui montre que 43% de la génération Y, hein, les millennials comme on les appelle ici, et 50% des nouveau-nés aujourd'hui sont non-blancs. C'est donc une évolution de la société qu'il faut prendre en compte. Et pour conclure, je dirais que le combat des pro-diversité va aussi plus loin que la race, le genre ou les préférences sexuelles, qui sont un peu les classiques de diversité. Ici, il y a beaucoup d'entreprises qui militent aussi pour une diversité de pensée. Avoir des profils, voilà, qui n'ont pas fait les mêmes écoles, qui n'ont pas eu les mêmes expériences, eh bien, elles vont amener une diversité de pensée dans l'entreprise qui est intéressante pour innover. Et là, on retombe sur un thème d'innovation qui est cher à la Silicon Valley.
Merci Nathalie pour ce Silicon Carnet et on enchaîne avec la sélection de gadgets d'Antoine Cyr. Antoine, quel gadgeto avez-vous trouvé pour nous?
Que diriez-vous de baskets connectées qui donneraient presque envie de se remettre au sport?
Ah, pourquoi vous me regardez comme ça?
Oh non, je vous regarde, d'accord. Vous m'avez l'air... Écoutez, je ne sais pas...
J'ai eu peur là.
Je ne sais pas si vous faites du sport, mais vous avez l'air d'en faire.
Oh, ça c'est beau.
Vous avez la mine...
Ça, c'est le meilleur compliment qu'on peut me faire en ce samedi. Merci voilà, beaucoup.
Non, vous avez la mine...
très fort.
La non, mine réjouie et la silhouette, comment dire... Oui. Voilà, allante. Vous êtes sportif, dans l'âme en tout cas.
Alors, d'accord.
Bon, donc, lors
cette basket connectée alors.
Lors du Mobile World Congress, qui a eu lieu en début de semaine à Barcelone et que vous avez bien connu.
Bien sûr.
L'entreprise coréenne, donc Samsung, a dévoilé une nouveauté qui n'a, pour une fois, enfin non, ils font beaucoup de choses quand même, mais qui n'a rien à voir avec la téléphonie mobile, puisqu'ils lancent, tenez-vous bien, des baskets connectées qu'on appelle les Samsung Loft. C'est une start-up de son laboratoire d'innovation qui s'appelle Salted Venture. Pardonnez mon accent.
Il est parfait.
Qui est à l'origine de ce projet. Alors, on connaissait déjà les baskets connectées qui traquaient le nombre de pas ou les calories dépensées, mais les Samsung Loft vont plus loin. Pour éviter les blessures et améliorer la réalisation de vos exercices, ces chaussures sont capables de localiser le centre de gravité de celui qui les porte. Hein, il est où votre centre de gravité, François, à vous?
Milieu.
Et la répartition du poids qui s'exerce sur l'ensemble de votre voûte plantaire.
voilà. D'accord.
Par exemple, le sportif qui fait un faux mouvement saura tout de suite qu'il faut le corriger et pourra suivre quand même les données jusqu'à la bonne réalisation. C'est quand même pas mal parce que peut-être que vous qui courez beaucoup, peut-être que depuis 30 ans, vous infligez à votre voûte plantaire
des mauvais gestes
qui un jour finiront par vous coûter très cher.
D'accord. Je le souhaite pas, mais je vais essayer ces baskets connectées, Antoine.
Alors, évidemment, vous avez une appli qui est liée au basket qui vous permet de suivre en direct ou en différé toutes ces infos. Mm-hmm. Mais vous pouvez aussi les partager. Alors, il va y avoir aussi un modèle spécial. Évidemment, on est en Corée, donc les Asiatiques, vous savez, aiment beaucoup le golf. Donc, on va avoir un modèle spécial qui sera proposé pour faire les bons gestes quand vous swingez. Et donc, les baskets classiques, celles pour courir, seront proposées pour $149 et celles pour les terrains de golf pour $199. Et ça a beau être Samsung, c'est une de leurs start-up. Donc, nous aurons une campagne de crowdfunding.
Ouais. Après, bon, reste à savoir si les jeunes vont vouloir acheter des baskets Samsung, quoi. C'est ça le truc.
Oui,
alors que,
mais
bon, en général, ils préfèrent les Nike, les New Balance, etc. Mais bon.
Ouais, mais
pourquoi pas.
Ah ben, hein? En même temps, c'est au moins, Samsung est légétime dans la connexion.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire, vous pouvez dire. Mais
il faut qu'elle soit belle, parce que ça.
Le fait qu'elle soit connectée ne suffira pas. Non, mais il faut qu'elle soit belle. Mais après, le gars peut arriver avec des Nike et puis son copain lui dire non, mais d'accord, mais toi, t'as des Nike connectés, mais la connexion est nulle, tandis que moi, j'ai des Samsung connectés, voilà.
Donc, et voilà, voilà. C'est ça.
Bon. Mais il peut lui dire, ouais, mais t'as des Samsung, la semelle de tes Samsung, etc. À mon avis, il faut pas que seulement qu'elle soit jolie, il faudra que ce soit des bonnes chaussures pour courir.
En plus.
Parce que si on vous dit comment améliorer votre voûte plantaire, mais que les chaussures vous abîment votre voûte plantaire, ça
c'est
marche
pas. Bon. C'est pas bon. Merci Antoine. Antoine qu'on retrouve tout à l'heure pour le crash test. Il sera question d'agriculture. Vous restez avec nous. La suite de cet atelier, c'est dans un instant sur BFM Business. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être avec nous. On va retrouver notre web stratégie tout à l'heure, bien entendu. Mais auparavant, notre focus startup avec cette semaine la startup la plus prometteuse selon la French Tech pendant ce Mobile World Congress. Et c'est avec vous, Lila Megrawa, et c'est une appli dédiée à la vidéo.
L'atelier numérique sur BFM Business.
François, pour ce focus start-up. Alors, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Dimitri Moulin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Dimitri Moulin, vous êtes président de la start-up Plush qui vient de recevoir le prix de la start-up la plus prometteuse de Business France au Mobile World Congress. Alors, expliquez-nous un peu en quoi consiste Plush.
Plush, d'abord, c'est une application qui est gratuite pour le grand public, qui est téléchargeable sur l'App Store pour les gens qui sont sous iOS, donc avec un iPhone, un iPad, un iPod, et sur Google Play pour les gens qui ont un smartphone Android. C'est une application qui permet de faire du direct vidéo HD depuis son smartphone. On télécharge l'application, c'est gratuit, on s'inscrit, c'est rapide, et directement derrière, on n'a plus qu'à rentrer le titre si on a envie de la vidéo qu'on va faire, à appuyer sur le bouton « Go Live », et on est en direct vidéo. Alors on est en direct vidéo où on est en direct vidéo sur l'application Plush, bien évidemment, sur sa chaîne Plush sur internet, www.plush.com. On a sa propre chaîne Plush, comme on a une chaîne YouTube, une chaîne Dailymotion, mais on peut partager sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Et puis le plus de Plush, c'est de permettre finalement à chacun de diffuser sur son propre site web. Ça peut intéresser les gens qui ont des blogs ou qui ont des pages personnelles. Ils intègrent une iframe, un petit player, un petit code qu'ils récupèrent sur plush.com. Ils le mettent sur leur site et ils peuvent être en direct sur leur propre site web. Alors ça intéresse, oui, le grand public, mais ça intéresse aussi les TPE, les PME, les associations, les clubs sportifs amateurs qui, eux, vont pouvoir le mettre sur leur propre site web et donc créer du contenu et le ramener chez eux.
Quelle serait la différence avec un Periscope, hein, par exemple ?
Il n'y a pas une différence, il y en a plusieurs. Avec les applications que vous citez, vous ne pouvez pas faire de Full HD, vous ne pouvez pas faire de HD. Donc vous faites de la vidéo en direct, oui, on est d'accord, on part de la même base, mais elle n'est pas de bonne qualité. En revanche, bon, c'est vrai, vous pouvez mettre des petits cœurs, c'est joli, c'est un chouette gadget finalement. Mais on est dans le jetable, dans l'immédiat. Les vidéos sont perdues au bout de 48 heures, vous pouvez plus les récupérer, c'est dommage. Avec Plush, vous filmez un événement, vous filmez votre fils qui marque un but le dimanche après-midi à son match de foot entre copains. Il est splendide, bah, vous n'allez pas le perdre, vous allez pouvoir le conserver. En plus, il sera en HD. Et puis après, derrière, d'autres différences aussi, qui sont peut-être peu importantes pour le grand public, mais qui existent pour les TPE, les PME, les associations, les clubs sportifs amateurs, ou même pour les clubs pro ou pour les médias. Et vous pouvez ajouter votre propre logo sur vos vidéos Plush. Ça veut dire que vous identifiez vos propres images. Vous pouvez diffuser sur votre site internet à vous. Donc vous ramenez les gens vers votre contenu que vous créez. Vous les ramenez chez vous. Vous pouvez mettre une vidéo d'attente pour dire rendez-vous 14h. Je reprends mon match de foot, mais rendez-vous 14h. Il va se passer quelque chose à tel endroit et on sera en direct vidéo. Et puis pour les grands comptes ou les médias, il y a une différence qui est essentielle, qui est cruciale. Toutes les solutions existantes, quand vous filmez avec, vous faites cadeau des images que vous filmez. C'est-à-dire que vous payez le journaliste, vous payez le communicant qui filme, vous payez la personne que vous filmez, vous créez de la valeur, vous avez un événement important et vous faites cadeau de vos images. Vous créez une valeur et puis vous dites « non, j'en veux plus finalement ». Vous la donnez. Avec Plush, ce qui est à vous, vous appartient. C'est une phrase qui a l'air bête, mais c'est quand même essentiel.
Dimitri Moulin, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes président de la start-up Plush. Merci.
Merci beaucoup, Lila. Alors, on parlait d'un gros événement qui s'est déroulé à Barcelone il y a quelques heures de cela. C'était le Mobile World Congress. On va enchaîner maintenant avec un gros événement.
Mais oui.
Qui, cette fois-ci, se déroule à Paris, mais vraiment à quelques mètres de nos studios de BFM Business. C'est le Salon de l'Agriculture.
Tout à fait, et qui commence aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, on va parler et on va en profiter pour parler de... Vous savez que j'aime bien le petit jargon. Tech, d'ag tech. Alors, l'ag tech, c'est quoi? C'est le croisement entre l'agriculture et les nouvelles technologies. Alors, ce secteur ag tech a un peu été sacré the new queen of green, la nouvelle reine du vert par TechCrunch récemment, et pour cause, l'un des curseurs pour sentir si un mouvement prend ou pas, c'est aussi de regarder du côté des investissements. Et sachez que le secteur de l'agtech aurait provoqué un tel intérêt en 2014 qu'il aurait attiré environ 2,3 milliards d'investissements, donc à savoir légèrement plus que le secteur fintech. Donc voilà, on va s'interroger sur l'apport des nouvelles...
On voit que
les
enjeux sont importants avec l'agriculture, évidemment.
Oui. Donc on va s'interroger sur l'apport des nouvelles technologies dans le secteur agricole. Et pour en parler en plateau, nous avons deux héros de ce mouvement, deux acteurs qui va de ce mouvement qui va bien au-delà de l'agtech. On va le découvrir. Alors, nous avons en plateau Lancelot Leroy. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Lancelot Leroy, vous êtes le directeur R&D technologie du groupe coopératif Terena. Et nous avons également en plateau Romain Farou. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Romain Farou, vous dirigez et vous avez cofondé la start-up R-Innov. On va commencer par vous, Lancelot Leroy. Donc, comme je le disais, vous dirigez le département R&D du groupe Terena, qui est un grand groupe coopératif, agricole, implanté dans le Grand Ouest de la France. Et Terena est à l'origine de ce qu'on appelle la nouvelle agriculture. Alors, Kézako, j'ai cru comprendre que c'est un modèle de production agricole qui met fortement l'accent sur l'utilisation des nouvelles technologies.
Alors, tout à fait, et c'est un mouvement qui a été lancé par nos agriculteurs, puisque nous sommes une coopérative, et donc ce sont les agriculteurs qui ont lancé ce mouvement de la nouvelle agriculture, qui a comme objectif de produire de façon plus écologique une alimentation plus saine, avec une meilleure valeur nutritionnelle pour le consommateur. Et pour ce faire, eh bien, on a recours aux nouvelles technologies qui sont un vrai support aux capteurs et qui viennent apporter un soutien à toute la connaissance que l'on peut avoir aujourd'hui sur le fonctionnement d'une parcelle ou d'un animal. Alors, comme le dirait Hubert Garraud, qui est notre président agriculteur, c'est un petit peu l'association du ver de terre et du big data, et c'est ce qu'on cherche à faire, et avec plein de promesses.
Est-ce que vous auriez un premier exemple marquant?
Alors, on a effectivement beaucoup d'exemples marquants, et je vous invite à venir effectivement au Salon de l'Agriculture où nous avons retenu 8 innovations. Au travers de ces différentes innovations, je vais vous en citer peut-être une première importante, qu'on travaille d'ailleurs avec une autre start-up française dans le cadre de la robotique, qui est en fait un robot qui va venir désherber de façon mécanique et de façon autonome. Et ce, en remplaçant, alors totalement ou partiellement, en fonction des conditions climatiques, l'utilisation de désherbants chimiques.
Romain Farou, j'imagine que vous partagez également cette approche, puisque vous avez créé la start-up R-Innov. Vous produisez des drones agricoles, c'est ça?
Alors, on partage bien entendu cette approche. On ne produit pas concrètement des drones agricoles. R-Innov, on est plutôt un promoteur de services basés sur l'utilisation de drones en agriculture, mais de services de conseil, d'observation, pour aider l'agriculteur, pour aider la coopérative, le technicien, à en savoir plus sur la parcelle pour laquelle il a à se prononcer, sur l'itinéraire cultural, la manière de mieux la conduire pour l'amener au meilleur de son potentiel de rendement, dans le meilleur respect des règles et donc de l'environnement.
À quoi sert concrètement un drone aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture ?
Il sert à faire des observations il sert à faire un bilan de santé du végétal, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va aller analyser par la couleur des feuilles. La couleur des feuilles, c'est quelque chose que ancestralement on sait traduire. Là, on va le faire avec des capteurs optiques un peu plus puissants que nos yeux, qui vont aller regarder des couleurs que l'on ne voit pas, comme dans l'infrarouge. Il faut savoir qu'une plante a un rayonnement infrarouge 10 fois plus intense que dans le vert. Donc ce que l'on voit en vert, le capteur que les drones Nerinov embarquent va le voir 10 fois plus finement, 10 fois plus précisément. Et surtout, il va le voir partout. Il va aller le voir à tous les recoins de la parcelle. Il est vrai qu'on est un peu limité par notre hauteur de vue, parfois, quand on fait notre tour de plaine, comme le disent les exploitants et les techniciens, quand on va faire le bilan de la situation de sa culture. Le drone permet d'avoir vraiment de porter un nouveau regard sur ces parcelles et ensuite permet d'intégrer ce nouveau regard dans tout le champ des nouvelles technologies en présence, dans les champs de dans les outils de visualisation, parce que déjà les exploitants sont quand même largement connectés sur des outils qui leur permettent de gérer leur ferme de manière informatique, ce qui ne les empêche pas de s'y rendre évidemment et d'aller toujours voir la vérité du terrain de leurs yeux. Mais on va pouvoir alimenter des bases de données, des outils d'observation et de conseils pour pouvoir prédire ce qu'il faut faire de mieux sur l'étape suivante. La plupart du temps, aujourd'hui, ces nouvelles technologies s'appliquent à l'apport d'engrais, qui est un poste important et un facteur de productivité important, un facteur également de pollution qui peut être important s'il est mal géré, mal piloté. Donc on va aller influer sur ces types de paramètres et ce n'est que le début. C'est surtout ça, nous, qu'on porte. C'est que ça fait 6 ans qu'on a commencé et qu'on a vu un petit peu grossir cette tendance dans le milieu agricole. On en est quand même que à des balbutiements. C'est ça qui est très prometteur, c'est de voir à quel point déjà ça crée un engouement. Déjà, le monde agricole a très nettement pris le sujet à son compte.
Lancelot Leroy, je vous vois opiner du chef.
Tout à fait, je pense que ces technologies, elles sont là. Alors, les drones sont également porteurs d'avenir, ça fait partie d'une des technologies. Nous, actuellement, on utilise aussi le satellite, hein, et on l'a déployé depuis des années sur quasiment 70% de la surface que l'on collecte, et avec un facteur de progrès important. On a économisé de l'ordre de 10 à 30% des apports d'engrais azotés sur les cultures pour augmenter notre rendement de l'ordre de 5 à 7%. Donc on voit que c'est à la fois bénéfique sur le volume produit pour l'agriculteur, sur le pilotage, mais aussi et surtout, et par rapport à notre projet d'entreprise, et bien sur l'impact sur l'environnement de façon très importante.
Alors qu'en est-il de l'élevage des animaux? Est-ce qu'on peut également assister l'agriculteur dans ce pan de métier là?
Alors le monde des objets connectés et de l'ensemble du numérique autour effectivement offre pour l'animal aussi comme pour le drone, on va regarder les parcelles, mais on va pouvoir mettre des capteurs qui vont regarder notre animal et renvoyer à l'agriculteur par des lunettes connectées que vous pourrez d'ailleurs aussi apprécier sur le salon, tout un tas d'informations sur l'animal que regarde l'agriculteur, mais aussi avec...
Quel type d'informations sur l'animal?
Alors quel type d'informations? Ben, vous allez avoir des informations par exemple sur sa santé qui peuvent être issues de capteurs.
D'accord.
Vous pouvez avoir des températures, enfin, la captation de température par des capteurs qu'on va mettre en sous-cutané et qui vont donner une information sur l'animal a de la température ou pas, est-ce qu'il est suffisamment oxygéné ou pas, est-ce qu'il y a une pathologie respiratoire ou pas. Et donc tout ça, ce sont des informations qui sont effectivement très importantes pour l'agriculteur. Après, il y a un autre domaine intéressant qui, vous le savez, on en parle souvent dans le cadre de la COP21. Les ruminants, ben voilà, ils rejettent du méthane et c'est bien embêtant. Et donc, on a mis en place un portail internet où l'agriculteur va pouvoir regarder ses émissions de gaz à effet de serre et notamment mettre en place. Donc, on a travaillé avec l'INRA et l'ADEME pour mettre en place des méthodes accessibles pour l'agriculteur pour limiter ses rejets de gaz à effet de serre. Et par exemple, en enrichissant l'alimentation de ces animaux avec de la graine de lin, riche en oméga 3, eh bien, il va pouvoir suivre les baisses d'émissions de gaz à effet de serre qu'il va faire en direct.
Parce qu'en changeant l'alimentation de l'animal, on arrive à faire baisser, en fait, on va dire, ses rejets, quoi, entre guillemets.
Ses rejets, tout à fait, de l'ordre de 10 à 15 %.
Ah oui, bah, c'est toujours ça de prix.
Exactement.
Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de quantifier ce gain-là, cette efficacité-là?
Donc je vous l'ai dit sur la partie nutrition animale, donc on s'est basé sur des essais scientifiques, on fait valider ça bien sûr par l'INRA, et on va suivre l'alimentation des animaux et on va pouvoir extrapoler cette efficacité connue dans les essais sur l'ensemble de l'exploitation agricole. Donc là sur les gaz à effet de serre, c'est de l'ordre de 10 à 15 % de méthane, ce qui est quand même assez important.
On l'a compris. Vous êtes purement dans l'assistance de l'agriculteur. Est-ce que pour autant toutes ces solutions vont lui permettre de mieux travailler, de travailler à la fois plus rapidement, de manière moins pénible aussi? Romain Farou et Lancelot Leroy après.
Moins pénible assurément. L'agriculteur aujourd'hui est un véritable gestionnaire, un manager qui a comme beaucoup un problème de temps et un problème de lourdeur parfois sur certaines des étapes de la gestion de son exploitation, en particulier les étapes administratives pour lesquelles là on a concrètement des véritables avancées grâce aux nouvelles technologies, grâce à de la saisie automatique de plus en plus, la gestion informatisée plus que papier. On a des innovations qui permettent d'envisager assez rapidement que soient automatiquement saisies les entrées-sorties des stocks de l'exploitation. Je vais prendre un exemple très concret. Quand vous avez un sac d'engrais qui vient de chez Terena, qui va chez un agriculteur, vous pouvez avoir un tracking automatique de ce sac d'engrais pour savoir quel a été son mouvement. Donc ça peut permettre de gérer la partie administrative entre l'agriculteur et sa coopérative. Et puis l'agriculteur, quand il va aller épandre ce sac d'engrais, ça va automatiquement savoir de quel lot il s'agit et dans quelle parcelle il a été appliqué, à quelle quantité, à quelle dose. Imaginons que tout ça, dans un avenir assez proche, soit maintenant saisi automatiquement parce que des puces RFID auront procédé à tout ce suivi. On voit bien tout le temps que ça peut faire gagner à l'agriculteur et lui permettre de se concentrer sur l'essentiel de son métier. C'est là qu'on est dans un vrai phénomène sociétal, celui de la robotique, celui de l'information au service de l'utilisateur et non pas pour le fliquer. C'est vraiment concrètement le débat qui se pose autour de ça, parce que ça lui permet de ne plus réaliser des tâches pour lesquelles sa valeur ajoutée d'expert n'est pas engagée. Ouais. Ça lui permet de revenir.
Ça lui permet de se concentrer à des choses plus on va dire à des spécificités de son métier. Quoi.
Exactement, à des vraies tâches d'expertise à forte valeur ajoutée. Et c'est vrai que pour ça, on est bien convaincu, nous, de qu'on porte un message qui est celui du robot au D'accord. service de son utilisateur.
Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle, on pourra vous retrouver sur le salon de l'agriculture d'ailleurs dès aujourd'hui et découvrir cette approche de nouvelle agriculture du 27 février jusqu'à début mars. Lancelot Leroy, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes directeur R&D du groupe Terena, et Romain Farou, vous êtes cofondateur et directeur général de la start-up R-Innov. Merci beaucoup.
Merci. Et
merci,
vous restez avec nous. La suite de cet atelier numérique, c'est dans un instant sur BFM Business. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business, entre web stratégie, spécial Mobile World Congress et Lila Megrawa. Vous avez rencontré les têtes pensantes de Ford qui étaient donc présents à Barcelone cette semaine.
L'atelier numérique sur BFM Business. La web stratégie.
Bonjour, Barb Samardzic. Vous êtes Chief Operating Officer de Ford Europe. Bonjour.
Bonjour.
Vous annoncez au Mobile World Congress, donne un peu la sensation que de constructeur, vendeur automobile, vous souhaitez élargir le champ et devenir une Smart Mobility Company, à savoir que vous vendez des services de mobilité.
Si on essaie d'imaginer le futur de la mobilité, eh bien c'est très clair que rester un fabricant de pièces, de superbes voitures et de camions, ça ne sera certainement pas suffisant pour les consommateurs. Nous devons leur fournir des solutions, même plutôt toute une ligne de solutions, et ça en fonction de leurs besoins de mobilité. Et ça va bien au-delà du hardware pur. Donc en fait, d'être proactif et de fournir des services de mobilité en plus de nos voitures et camions, que nous continuerons bien sûr à produire, eh bien, c'est tout un nouveau business qui s'ouvre à nous et qui est, en plus, parfaitement en accord avec notre marché habituel.
Concrètement, quel service de mobilité est-ce que vous avez mis en place ?
Il y a 4 ans, on a commencé à être présent sur le Mobile World Congress. Et on était le tout premier constructeur automobile à y être. Ça, c'est parce qu'on a reconnu l'importance des solutions de mobilité. Et depuis, on a travaillé sur tous les genres de dispositifs sur la mobilité, que ce soit avec notre système SYNC, qui est notre service de connectivité destiné aux conducteurs et passagers, et qui leur permet d'utiliser, par exemple, AppLink. Ils peuvent utiliser leur téléphone et leurs applications préférées et les charger sur notre interface, ce qui leur permet d'accéder à leurs applis dans leur voiture de la même manière qu'ils y accèdent sur leur téléphone. Et ça leur donne aussi des informations, comme savoir où ils peuvent se garer, quel est le trafic auto environnant. En fait, toutes les infos et la connectivité nécessaires pour rendre la conduite plus agréable. Mais sinon, on fournit d'autres services qu'on n'associe pas d'ordinaire avec un constructeur automobile. Si certes, on comprend la nécessité d'un service de connectivité, il y a d'autres services qui sont moins évidents. Par exemple, les services qui vont connecter différents modes de transport. On a travaillé par exemple avec un fabricant de vélos pour intégrer des vélos spécialement conçus pour entrer dans nos véhicules, afin qu'un consommateur qui vit loin des zones urbaines puisse aller en voiture jusqu'à la gare, prendre le train, emporter son vélo, facile à transporter, arriver en train, en ville et prendre le vélo jusqu'à destination.
Est-ce qu'on pourrait dire que tous ces services de mobilité que vous mettez en place sont la préparation, quelque part, parfaite d'une autre révolution à venir, celle du véhicule autonome ?
Je vois le véhicule autonome comme un outil supplémentaire dans le kit de la mobilité intelligente. Mais oui, avoir un niveau conséquent de connectivité est très important pour que le véhicule autonome corresponde aux besoins du consommateur. Pour moi, c'est juste un outil. Mais en revanche, tout le système qu'on va concevoir et qu'on conçoit déjà autour de la mobilité, ça ira bien au-delà du véhicule autonome. Ça va être utile pour le consommateur, peu importe les scénarios et ses besoins.
Et donc, si je comprends bien, la voiture autonome pourrait être le bureau du futur ?
Oh, absolutely. In fact, I think. Mais oui, absolument. Je crois qu'on peut déjà l'observer aujourd'hui. Vous savez, la conception du bureau comme un endroit bien défini, avec des objets bien particuliers, on est bel et bien en train de s'éloigner de ce modèle. Un employé connecté, qui est connecté sur sa route vers le bureau, qui est connecté à la maison lorsqu'il télétravaille, est de toute façon un télétravailleur extrêmement mobile. Et le travailleur mobile n'a certainement pas besoin de cet espace bien défini, dans un bâtiment bien défini pour faire son boulot. Je crois que c'est assez clair que je suis assez fan du concept. Mais je pense que c'est vraiment une vision déjà répandue. Il existe déjà des sociétés qui l'opèrent. Le terme dont j'ai beaucoup entendu parler est l'hôteling. Quand j'ai besoin d'aller au bureau, c'est comme aller dans un hôtel. J'ai besoin d'un espace pour la journée, j'ai tous mes appareils connectés et j'utilise tout ça pour une journée et le lendemain, je pourrais très bien ne pas être au bureau du tout. Donc en quelque sorte, je n'ai pas besoin de ma chambre d'hôtel-bureau. Et je crois que oui, c'est crucial de rendre la connexion entre la maison, vos activités et la voiture sans douleur.
Thank you. On va se tourner à présent vers le professeur Ken Washington, qui est vice-président R&D Innovation Monde de Ford. On va continuer à parler de voitures autonomes. Et pour cause, le PDG de Ford a annoncé au Mobile World Congress qu'il triplerait les investissements de Ford dans les systèmes d'aide à la conduite et la conduite semi-autonome, et ce, sur ces 5 prochaines années. Ken Washington, bonjour.
Hello, it's great to be here.
Vous aimeriez, dites-vous, vous focaliser sur la conduite pleinement autonome à terme. Est-ce que vous pensez qu'on est prêt pour ça ?
Right now, we're not. But as an industry, there are enough people working on this problem.
Alors, juste maintenant, non. Mais oui, nous sommes une industrie qui mettons beaucoup de personnes pour travailler sur le sujet. Et oui, nous avons un devoir d'avancer, d'ouvrir le dialogue avec les politiques surtout, afin que lorsque la technologie sera prête, nous aurons la bonne régulation, les bonnes pratiques en vigueur. Mais il y a encore beaucoup à faire. La discussion a déjà d'ailleurs commencé. Et Ford y participe grandement. Et ça, parallèlement à nos efforts très poussés de recherche pour rendre tout cela techniquement possible d'ici les 4 prochaines années.
Mais alors, verra-t-on d'abord apparaître des voitures autonomes dans le grand public, d'abord en tant que transport public, avant même de voir la voiture privée autonome ? Quelle est votre prédiction là-dessus ?
It's a great question because
C'est une excellente question. De ce qu'on comprend de cette technologie, c'est certain que ces véhicules coûteront plus cher qu'un véhicule pas autonome. Donc la toute première application que je vois à ces véhicules sera dans les transports en commun, les transports qui ne relèvent pas de la propriété personnelle. Et il y a beaucoup d'avantages à utiliser le véhicule autonome comme transport en commun. Le transport en commun dispense de facto des services. Et parce que le véhicule est autonome, le conducteur sort du schéma, oui, vous n'avez pas besoin de conducteur. Le service sera donc beaucoup moins cher. Il y a beaucoup d'avantages à prendre en considération. Ça peut être un vrai facteur de business. Nous n'abandonnons évidemment pas l'idée de créer des véhicules autonomes privés. Ça viendra, mais pas en premier.
Lila, merci. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique avec notre passion selon Sanet. Et on va parler de l'obsolescence programmée dans un instant. À tout de suite.